Bonjour à tous, vous écoutez Le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Bon lundi matin, mon nom est Nelson, je suis accompagné du grand, du seul et unique Marc-André Jutras. Comment vas-tu?
Très bien monsieur, et vous-même?
Je suis en pleine forme, il fait chaud, il fait beau.
C'est la canicule.
On le dit à chaque semaine ou presque, il fait beau, il fait chaud, mais c'est ça qui arrive. Il fait beau, c'est l'été.
J'enregistre en bédaine.
On espère que vous êtes en bédaine également à la maison ou en voiture si vous nous écoutez au volant.
En chest.
En chest parce qu'il fait chaud.
En parlant de chest, on va parler de Stax. Stax Records.
Stax Records.
Stax Records.
De qu'est-ce que c'est?
Booker T and the MGs.
C'est ce qu'on vient d'écouter, la première pièce de l'émission. Booker T and the MGs.
Un vinyle qui a du millage. Vous aviez sûrement entendu du popcorn. C'est délicieux le matin. C'était l'album Melting Pot et la chanson, c'était Chicken Pox.
Chicken Pox, si on traduit en français, c'est la varicelle, je crois.
Je pense que oui.
Ouais.
Mais c'est funky, la varicelle, comme ça, le matin. Il me semble c'est...
Il
me semble que c'est bon à, ça serait bon à sampler pour du hip-hop. C'est déjà,
Sûrement.
C'est déjà fait. Là.
Moi, je serais curieux de savoir c'est quoi l'explication du titre.
Oui. Ben, il y a un des gars qui a pogné la varicelle. Il était en tournée à Jacksonville, puis il l'a pogné. T'as Donald Duck Dunn on bass. Booker T. Jones on keys. T'as Mr. Al Jackson Jr. on drums and Steve Cropper on guitar. Quel album, quel groupe de jammer, c'est comme le house band qui enregistrait avec un peu tous et n'importe qui, mais c'est surtout Booker T, hein, le claviériste, pianiste qui a le flair de la mélodie accrocheuse, là. Tu sais, le verre d'oreille qui te reste dans la tête, là, pis ça te reste. T'es pogné avec. Fait que c'est comme Chicken Pox, t'es pogné avec. Tu l'as pas une couple de jours, tu sais, pas une couple de jours, c'est
bravo,
peut-être ça.
Bravo, Marc-André.
J'ai trouvé le lien. Un lien impossible.
Ça fait du sens.
Ça fait aucun
sens. Merci. Oups, j'échappe pas le vinyle.
Ben non.
Alors, belle émission pour commencer l'émission cette semaine.
Oui. On va parler de Québec beaucoup. On est allé à Québec. Il y a beaucoup de choses qui se passent l'été à Québec. J'aime aller à Québec l'été plus que l'hiver. Et allons-y. On va parler au lieu de parler d'une bande dessinée en particulier, on va parler d'un festival de BD à Québec. On va revenir sur le FEQ, le FEC, et on va avoir de la bonne musique, tout simplement.
Et on va jaser de toutes sortes d'affaires.
Ouais.
On va jaser, on va pas jaser du virus.
Non.
Ni de la varicelle.
Non. Promis.
Donc, on va jaser de plein de belles choses. Et on va commencer avec...
Le FEQ. Qu'est-ce que c'est allé voir?
On part là-dessus.
Bon,
mais écoute, on parle du Festival d'été de Québec, du fameux gros festival qui dure deux semaines.
Ouais. Un incontournable.
Un incontournable de la ville de Québec. Il y a plein d'artistes qui vont là-bas. Il y a des shows gratuits, des shows payants. Des groupes actuels, mais aussi des vieux groupes, hein, on peut le dire comme ça.
Non, ouais.
Des has-been.
Quoi, les Rolling Stones étaient là cet été, je les ai pas vus.
C'est vraiment de la musique, vraiment des spectacles nostalgie, on peut le dire comme ça, je pense.
Okay.
Moi, j'ai pas vu grand-chose. J'y suis allé seulement une journée.
OK, ben on va.
Une soirée.
On va y aller par journée.
Et
moi,
toi?
Moi, j'étais allé 4 jours.
4 jours?
Ouais.
My God.
J'ai maximisé mon bracelet au maximum.
Ouais, c'est bon.
On est allé, tu sais, des fois, faut faire des concessions dans la vie.
Ouais.
Et j'en ai fait une pour ma copine que j'adore. Elle voulait aller voir Alanis Morissette, la Canadienne. Elle, de son Mexique natal, elle avait entendu parler d'Alanis Morissette. Ben, Alanis Morissette était planétaire, faut dire. Là.
Ouais.
Inquiétez-vous pas, on ne fera pas jouer du Alanis Morissette. Mais je vais vous dévoiler quelque chose.
Pourquoi pas?
Je sors du garde-robe. Je trippais pas, moi, sur Alanis Morissette dans les années 90.
Oh
il y avait
non.
une couple de tunes. Elle était bonne, mais ça jouait tellement que
t'étais
saturé. Là, tu changeais de
poste. Ça a beaucoup tourné. Hein?
Ça a beaucoup tourné,
vraiment
autant
beaucoup.
Sur les chaînes commerciales que même au début presque alternatives. Mais c'était un excellent show. Ça a commencé avec, c'était un vendredi, ça a commencé avec un groupe de l'Ontario canadien qui s'appelle... C'était une soirée rock féminine.
Ouais.
Fait que ça, c'était cool. Ça, c'était un beau concept, chapeau. The Beaches de l'Ontario. C'est 4 jeunes femmes affamées une soif pour le rock and roll puis la décadence. Fait qu'on avait The Beaches que je ne connaissais pas et qui ont cassé la glace de façon merveilleuse.
Okay.
Et c'est des Canadiennes. Chapeau les filles, je vais écouter ça. Il paraît qu'il y a une ou deux tunes qui jouent souvent et qui se retrouvent même dans des séries.
Ouais,
des sitcoms ou des choses comme ça. Là. Tu sais, ça rock, ça déménage. C'est du rock pop, mais assez efficace. Moi, des fois, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à du. T'sais, sans faire trop de comparaisons, là, mais un petit peu à du old, à Courtney Love, un peu. Il y avait un petit côté, là, à peine, mais un petit côté grungy.
Grunge bout, 90.
Un petit peu, une petite touche.
Ça fitait bien avec Alanis Morissette, qui était
de ces années-là aussi.
Populaire dans les mêmes années.
Mais entre les deux, il y avait un groupe qui vient de l'Écosse, si je ne me trompe pas, Garbage.
Ah, OK,
qui
oui.
Qui est par une chanteuse et c'est elle la seule membre féminine du groupe et les autres, c'est des messieurs à barbe et à plus de cheveux sur le coco. Là. Ils ont du mélange, ils ont du rock and roll. Même elle aussi, au début, c'était comme, on était assez proches, puis c'était un peu épeurant. Elle avait comme un corset, mais elle avait comme une espèce de... Comme les femmes girafes un peu en Thaïlande, elle avait comme des anneaux, un enfant dans le cou que tu aurais pu l'attacher, là, on va dire.
Un choker?
Comme un choker, mais cou, en tout cas, une patente. Elle m'en a l'enlevé, puis on pensait que ça, c'était pour cacher quelque chose. Mais non, elle avait un beau cou, finalement. Il n'était pas trop plissé, malgré le...
C'était pour la voix?
Je sais pas, mais elle a une super belle voix, puis je reconnaissais 2-3 hits qui étaient populaires aussi dans ces années-là, 90. Demandez-moi pas de les chanter ni de les titres. Puis il y avait même une tune qui jouait dans, je pense, Grand Theft Auto. Le jeu vidéo. C'est pour ça que le fils de ma blonde connaissait ça. Et là, ça, c'était pour builder là, la soirée rock féminin. Et là, t'as Alanis Morissette, mais là, avant le show commence, il y a à peu près 5 minutes de vidéo qui est un récapitulatif de sa carrière, de sa vie, de ses débuts. Je savais qu'elle avait commencé jeune, mais pas aussi jeune. C'était comme une...
Elle avait une carrière dance pop,
exact,
qui était moins connue à l'époque, qui était plus... peut-être au Canada anglais, mais elle avait comme pas percé aux États-Unis, je crois, avec ce répertoire musical-là.
Ouais.
Puis elle avait aussi un autre look, hein, mes souvenirs. Vraiment, c'était ça, c'était pop.
Il y avait du spray net.
À l'époque, genre Paula Abdul, début 90. Là.
Exact.
Puis après, elle est tombée dans le plus pop-rock.
Oui, puis rock. Elle a commencé à écrire ses choses. Au début, je pensais qu'elle n'écrivait pas son matériel, mais après ça, c'est elle qui écrit ses paroles. Puis qu'est-ce qui fait l'originalité d'Alanis Morissette? Ben, ceux qui la connaissent, vous le savez, c'est des textes engagés, mais des textes sur la féminité, sur
un point de vue
féminin de beaucoup de choses, de la vie en général.
Exactement.
Fait que, aux surprises, juste cette vidéo-là, ça crée comme un... Moi, j'ai le terme en anglais, excusez, c'est un build-up. Ça crée, ça émoustille la... Et là, ça a explosé. Et son répertoire, c'est pas juste 2, 3, 4 hits. C'est juste des hits.
Elle a beaucoup de hits.
Oui.
Moi, j'ai juste l'album en tête, Jagged Little Pill.
Oui.
Qui avait comme...
C'est ça.
Toutes des hits, je pense.
Ouais, exact. Ça a tout joué.
Toutes les tunes ont été diffusées à la radio à l'époque.
Fait que le visuel était super impressionnant. Ses musiciens, moi, je pensais pas aimer ça à ce point-là. L'idée qu'on soit proche, ça l'aide. On est arrivé assez tôt. Les musiciens qui l'accompagnent, c'est des vétérans. Je peux pas dire avec qui ils ont joué. Son guitariste, hallucinant. Son bassiste, tu l'entends. Ça, c'est le fun dans du pop puis dans du rock, entendre une grosse bass. Un drummer, un clavieriste, tout ça. Et que dire d'Alanis Morissette? Et là, ça, c'était la crainte un petit peu de ma copine. Qui connaissait plus son répertoire, qui connaissait plus sa carrière, et elle se demandait, tu sais, on l'a pas vu pendant quoi? 10, 15 ans? Je sais pas. Je le sais même pas moi-même. Là, je lance une question comme ça.
Ben ouais.
Bon, on l'a pas vu depuis un bout.
Début 2000 environ.
Environ. Et là, elle revient. Tu sais, elle n'est pas si grande. Elle n'est pas très grande. Hein. Elle n'est vraiment pas grande. Elle est 5 pieds 2. En tout cas. Mais quelle prestance qu'elle a, quelle voix elle a. Fait qu'elle n'a pas perdu sa voix. Des fois, elle chantait, son micro était super loin. Puis elle faisait comme des espèces de, tu sais, des fortissimos, puis des fois des pianos. Mais c'était incroyable l'acoustique, la voix qu'elle a, qui porte, qui résonne. Était vraiment, je crois qu'elle était vraiment heureuse d'être là.
Ah ouais.
Ça, moi, je crois. En tout cas, moi, je ben sentais. Oui. Peut-être, tu sais, je la connais pas, mais je sentais qu'elle était vraiment heureuse et fébrile d'être là. Et une chose que j'ai remarqué, ceux qui la connaissent depuis longtemps, j'imagine que vous l'aviez déjà remarqué, puis elle doit en avoir déjà parlé. Mais moi, je suis un newbie, là. Je connais rien de Alanis Morissette, à part qu'elle est canadienne, à part l'album qu'on a parlé, son gros album, puis que ça jouait partout, puis je l'ai vu dans un film de ceux qui ont fait Clerk, Bob and Silent, elle faisait Dieu.
Kevin Smith.
Oui, Kevin Smith, merci, elle faisait Dieu. Dieu était une femme et c'était elle.
Ah oui, t'en ça me dit quelque chose. Ouais, anyway. Ouais.
Fait qu'il y a tout ça, mais tout le long qu'elle chante, elle tient son micro, mais elle se touche les mains constamment. Au début, je me disais, elle compte ses temps, elle essaie de se trouver des repères. Non, elle a comme un tic nerveux.
OK.
Et moi, j'étais fixé. J'ai eu une fixation sur ses mains.
Ah.
Et c'est assez incroyable. Là. Elle est tout en train de se tripoter les mains. Peut-être c'est pour contrôler son stress, peut-être pour gérer d'autres choses. J'ai aucune idée. Mais c'était assez impressionnant. Et elle est très, je dirais pas acrobatique, mais elle se contorsionne quand même beaucoup. C'est pas la Alanis Morissette aussi qu'on connaît, qui était quand même... Moi, je l'imaginais grande et mince. Mes souvenirs à moi, c'était ça. Dans le fond, elle est petite et là, elle est un petit peu... elle a pris du poids. Puis je pense qu'elle est bien dans son corps. Elle s'en fout. Elle n'a pas de pression de vendre des albums ou pas en vendre.
Ouais.
Elle fait des shows, puis c'était plein, puis c'était populaire. Mmh. Fait que super de bons spectacles. Et il y a peut-être deux chansons que j'aurais peut-être, tu sais, même en connaissant pas le répertoire, que j'aurais enlevé, qui ont comme ralenti un peu le tempo, la cadence, mais c'est pour revenir en force pour la finale. Elle est revenue naturellement avec un rappel. Et elle avait, chose que je ne savais pas, et je regardais les vidéos, souvent quand la musique jouait, il y avait souvent des projections en arrière, et il y avait le drummer de Foo Fighters qui est décédé. Oui.
Qui était avant les Foo Fighters, qui jouait avec elle.
Exactement.
Ouais, ouais, ouais.
Fait qu'elle a fait un hommage à son drummer. C'est quoi encore son nom? Tu sais-tu?
Tyler quelque chose?
Oui, c'est ça. Ouais.
Watson?
Ouais.
Tyler Watson? Ou je sais plus. Ouais. Honnêtement, je sais.
C'est Tyler quelque chose. C'est ouais. En tout cas, oui. Elle a fait un hommage, puis il y avait une grande photo de lui, puis
ouais.
C'est ça, elle avait joué, fait qu'il y avait beaucoup de, tu sais, des fights, des jams que tu le voyais, il y avait les cheveux longs, blonds, la barbe, mais il était plus jeune, fait que c'était, ouais, il y avait de l'émotion dans l'air, puis le monde, le public de Québec était très content de l'avoir, je sais pas si ça faisait combien de temps, je pense qu'elle l'a dit, mais j'ai pas retenu, ça faisait plusieurs années qu'elle était pas retournée au Québec, fait que le lien, c'était très fort, il y a un lien d'attache à la Nice et Québec, et quelle merveilleuse soirée pour commencer, le FEC!
Donc, c'était sur la grande scène, ce spectacle-là?
Oui, la grande salle, la scène, oui.
Sur les plaines d'Abraham.
Sur les plaines d'Abraham.
OK.
Avec une température parfaite.
Ouais.
Ouais.
Cool.
Ouais. Et le lendemain.
Le lendemain qui était donc le samedi 16 juillet.
Exactement.
Pas de plus. Et là, je me suis pointé.
Oui.
Je suis arrivé à Québec.
Avec ta troupe.
Avec ma délégation familiale. Littéralement, je suis arrivé avec les enfants. Mais les enfants ne sont pas allés voir le Festival d'été de Québec. On est allé voir, donc le samedi, c'était la soirée Rage Against the Machine.
Oui, monsieur.
Et en première partie, il y avait deux autres groupes. Donc, on a vu Vulgaire Machin et Alex is on Fire.
Ouais.
Alors,
deux groupes canadiens.
Pour vrai, Alex is on Fire, ouais, c'est canadien?
C'est Hamilton, je ne me trompe pas.
Ah, waouh, j'avais aucune idée.
On va dire Toronto, on va dire l'Ontario. Ouais, c'est canadien.
Je t'avoue que je ne connais pas du tout Alex is on Fire. J'ai découvert ça vraiment sur scène, là-bas.
Et... ton opinion?
Si on commence par Vulgaire Machin, ben Vulgaire Machin est fidèle à eux-mêmes. C'est vraiment, comme toujours, très bon. Je les ai vus en spectacle je ne sais plus combien de fois. Donc, ils n'ont pas vraiment de nouveau stock. Quoique,
ils travaillent sur du nouveau matériel.
Ils travaillent sur du nouveau stock. Ouais. Donc, ils nous l'ont dit aussi qu'ils vont... il y a un spectacle qui s'en vient, je crois, un nouveau spectacle en novembre, sauf erreur, ou c'est un album en novembre, je m'en souviens.
Ouais, il y a quelque chose.
Il faut dire que j'ai manqué la moitié du spectacle parce que j'étais dans une file d'attente pour les toilettes.
Ah, OK.
Qui a duré à peu près tout le spectacle des Vulgaires Machins. Mais j'entendais la musique pareil.
Une foule interminable pour les concessions.
Il y avait des longues files pour les toilettes chimiques au Festival d'été de Québec, mais vraiment, là, c'était encore sur la grosse scène des Plaines d'Abraham. C'est vraiment une grosse scène super impressionnante. Une belle grosse scène. Vraiment, le son est excellent, puis l'éclairage était vraiment excellent aussi. Donc, Vulgaire Machin, toujours très bon.
Ouais.
Et ensuite, il y avait Alex is on fire. Écoute, moi, je suis vraiment pas un fan de cette musique-là.
Ouais.
C'est correct. Ils ont donné une bonne prestation. Il y avait plusieurs fans qui étaient là aussi.
Ouais.
C'était très énergique. C'était vraiment, le son était parfait. Puis... Mais moi, personnellement, c'est pas mon...
C'est pas ta tasse.
C'est pas ma tasse de thé.
Moi non plus. Mais prenez un petit café, prenez du thé, du jus d'orange ce matin pour vous mettre sur le piton parce qu'on va mettre des choses qui vont décoller. Ben, on ne mettra pas du Alexis on fire, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait deux tunes qui se sont démarquées. C'était plus vers la fin. C'est comme si au début, ils ont eu de la misère à casser la glace, même s'il y avait leur fan base. Mais moi non plus, ça ne vient pas me chercher. Un petit côté emo screamer qui me fatigue un peu, mais ils donnent un bon spectacle, c'est des bons musiciens.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop formaté à mon goût, à moi, mais,
ouais.
Mais ça, pour une soirée comme ça, c'était correct.
Non, mais vraiment, il y avait beaucoup de gens qui étaient contents
ouais.
de les entendre sur scène, puis donc c'est ça, il y avait plusieurs personnes avec les t-shirts d'Alexis on Fire qui avaient l'air bien, bien satisfaits. Mais si je mets de côté mes goûts personnels, ça semblait être un très bon show. Là, ouais. Comme tu dis, ils avaient vraiment beaucoup d'énergie sur scène. Ils se sont vraiment donnés. Ils communiquaient bien avec la foule.
Ouais.
Puis le son était excellent.
Puis moi, pour ceux qui étaient là, tes cousins et moi, on voulait t'offrir une espèce de one suit, un jumpsuit. Comme le guitariste en flamme et tout ça, on le voyait là-dedans. On trouvait que c'était...
Ah, OK.
On trouvait que ça tirait très bien.
Ouais, ça te fit très bien. Un One Piece de Léopard qu'il y avait.
Oui, Léopard. Puis il y en a un autre qui avait un tigré avec il y avait des petits bouts de flamme à quelque part. En tout cas, où j'ai peut-être mélangé deux affaires ensemble. Mais en tout cas, un One Suit.
Puis après Alexis on Fire, il y avait enfin Rage Against the Machine, qui était la raison principale pour laquelle moi, je m'étais acheté un billet. Pour le Festival d'été de Québec.
Moi aussi.
S'il n'y avait pas eu Rage, j'aurais pas été. Sincèrement, ouais. C'était vraiment la seule et unique raison pourquoi je suis allé à Québec cette journée-là. Parce que je n'ai jamais vu Rage Against the Machine en spectacle. C'était ma première fois, mais je suis un grand fan.
Fini.
Ce groupe-là. J'ai grandi avec ça durant mon adolescence. Et... ben, c'est ça.
T'as passé ta rage des dents avec Rage.
J'avais vu il y a peut-être trois ans avant la pandémie,
ouais,
Prophecy. Prophets of Rage, ah ouais. Qui était comme le super groupe réunissant les musiciens de Rage avec Chuck D de Public Enemy et Be Real de Cypress Hill. Ils étaient venus à Montréal au Centre Bell. Ils avaient joué principalement des chansons de Rage avec quelques nouvelles chansons de ce super groupe Prophets of Rage.
Ouais.
C'était très, très bon, mais c'est sûr que ça manque. C'était pas la voix. Donc, t'entendais Be Real et Chuck D chanter du Zach de la Rocca. Alors, ce qui est quand même le fun à dire, parce que dans le sens que ce chanteur-là a sûrement été lui-même été influencé
par Public Enemy.
Par Cypress Hill et Public Enemy ouais. Dans les années 90. Mais là, on avait enfin la chance de voir Zach de la Rocca, même s'il était blessé, il était assis sur scène, mais ça n'a rien changé.
Non.
Ça, en fait, même que...
Il a livré la marchandise comme un champ.
Vocalement, on avait l'impression que c'était peut-être même meilleur parce que comme toute son énergie, son focus était
centré sur la voix.
Sur sa voix, sur sa parole, moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était peut-être même meilleur au niveau de la voix d'un Zach de la Rocca qui aurait couru partout sur scène, qui aurait sauté. Ça aurait été vraiment le fun aussi. Mais là, comme il était assis, vraiment... Puis aussi parce que visuellement, ben, sur l'écran géant, la caméra pouvait bien le fixer, on le voyait très, très bien. Puis c'était vraiment un spectacle à tout casser. C'était vraiment excellent, excellent, excellent. Rien à dire contre. C'était de A à Z, juste de la bonne musique.
Vous avez un fan comblé.
Ouais.
Le monsieur était content.
Vraiment
content. C'était vraiment, vraiment excellent. Comme tu dis, j'ai rien à rajouter. Le delivery de Zach de la Rocca était incroyable. Moi, j'avais un petit pincement. En passant, il va être assis tout le long. C'est pas ce que je connais de Rage Against the Machine, mais il a livré la marchandise pareil. Son delivery, sa prestance, son regard.
Ouais.
C'est comme un comédien. Il peut être diminué. Il aurait pu être dans le plat. Ça n'a rien changé à l'énergie, à la tension électrique qu'il y avait dans l'air. C'était de toute beauté. Si vous avez manqué ça, vous avez manqué ça parce que
vraiment,
c'est pas une gimmick là. Oui, ils font une tournée puis ils vont faire de l'argent les gars, ça c'est sûr. Leur retraite est assurée, mais le set de chansons était sa coche, le visuel était sa coche.
Oui.
Tout était planifié au quart de tour.
Vraiment, c'est ça. Ils ont joué autant des grands hits que des chansons un peu moins connues de leurs albums. Tu sais, par exemple, ils avaient joué, je crois que c'était Born of a Broken Man du troisième album, Battle of Los Angeles. Bref, ils ont aussi joué The Ghost of Tom Joad,
ouais,
qui est une reprise de Bruce Springsteen. Ils ont joué aussi No Shelter, qui est une chanson qui n'est sur aucun album, puisque ça avait été une pièce commandée pour le film Godzilla dans les années 90.
Ah ouais, ok. Je
donc, okay. Ils ont vraiment... Ils se sont promenés dans tout leur répertoire. Albums, ouais. Mais c'était tellement bon. Je veux dire, c'est comme si Rage était jamais...
Il n'avait jamais arrêté.
C'est comme s'il n'avait jamais arrêté. C'est comme si on était en 96, puis ils étaient à leur prime, à leur pic de popularité.
Ouais.
Puis vraiment, là, les musiciens, c'était tight. Ça pouvait pas être mieux, honnêtement.
Puis ils étaient contents d'être là. Ça paraissait. Puis c'est fou quand tu penses à ça. Tom Morello, le guitariste, le principal, le compositeur de la musique, puis tout ça, il a pas changé, il a pas vieilli. Il joue avec la même guitare, malgré qu'il... on va se le dire, là, c'est Rage Against the Machine, sont millionnaires. Ils ont la machine musicale, la machine, en tout cas, au moins des infrastructures pour faire des bons shows avec du bon visuel, du bon gear. Il l'a dit dernièrement, je m'en rappelais pas qu'il avait dit ça, mais ça a repassé. À place de se comparer à ces Guitar Hero, qui à ce moment-là, c'était peut-être Randy Rhoads de Osbourne ou de Eddie Van Halen de Van Halen, il a dit « Je vais être le DJ. À place d'être le guitariste, je vais être le DJ de ce groupe-là. » Puis c'est ça qu'il fait sur sa guitare. C'est un DJ. Oui, il joue de la guitare. Oui, c'est jouer de la guitare. J'enlève rien. Mais il a développé sa propre technique, son propre langage.
Oui, vraiment.
Puis après ça, il a été recopié des millions de fois. Mais il a encore sa signature, il a encore sa pertinence. Puis ça n'a pas vieilli, ça n'a pas fait comme « Ah, oh, it's so, c'est très 90. » Non, non, c'est dans ta face. C'est dans ta
vraiment.
Face.
Vraiment. C'est sûr que, oui, parce que nous, on le sait, on l'a écouté dans ces années-là. Oui. Mais moi, autour de moi, il y avait quand même...
une nouvelle génération.
Des jeunes, ben on s'entend peut-être dans vingtaine, début trentaine. Il y avait aussi des plus vieux comme nous, mais sinon, vraiment, c'est ça, il y avait un peu de tous les âges. C'est sûr qu'à la moyenne d'âge, on s'entend que c'était pas les 18-25, là, on s'entend. Mais il y en avait quand même, tu sais.
Ouais.
Puis aussi, ben, parce que bon, veux pas, Rage, c'est un groupe extrêmement engagé. Tous les textes sont engagés, sont vraiment coup de poing. Très revendicateur, très contre-culture, puis c'est encore très, très pertinent. Puis dans le paysage musical, ben c'est pas ça qui est populaire aujourd'hui. C'est ça qu'on peut chialer, nos chialeurs, mais ouais, c'est pas ça qui est populaire aujourd'hui, puis c'est le fun de voir qu'ils sont encore écoutés aujourd'hui. Puis j'ai aussi l'impression que Rage se sont aussi réunis, parce qu'à la base, cette tournée-là, elle devait commencer en 2020.
Ouais.
Au début de la pandémie. Puis, je crois que ce qui avait motivé beaucoup la réunion du chanteur avec le groupe à l'époque, c'est peut-être
la situation politique des États-Unis à ce moment-là.
C'est ce que je suppose. Ouais. À l'époque, c'était Donald Trump qui était encore là. Bref, je pense que c'est un peu ça qui a motivé tout ça.
Exact.
Puis, le faire en sorte que qu'il se promène comme ça partout dans le monde. T'sais, c'est une grosse tournée mondiale, là. Puis là, bon, avec la pandémie, tout a été reporté cette année ou l'année prochaine, dépendamment des villes dans le monde.
Ouais, nous, on était supposé les voir en 2020.
En 2020, au FEC, justement. Ouais. Puis là, donc là, leur tournée continue en Amérique du Nord. Ils s'en vont en Europe par après. Puis ils recommencent en 2023, au printemps. Fin d'hiver 2023, ils continuent encore en Amérique du Nord. Comme par exemple, ils vont être dans l'Ouest canadien en 2023 seulement.
Ah, OK.
Vancouver, Edmonton, etc. Donc, en tout cas, c'était vraiment extraordinaire. On a été comblés. C'était jouissif. C'était un pur plaisir. Moi, personnellement, j'étais avec ma copine. On était plus près de la scène. Vous, vous étiez plus loin derrière.
Hey, si tu veux, on va en reparler. Je te mets sur pause. On va y aller extra, extra avec des news, mais on va en reparler tout de suite après.
Music, man, grow up.
Bonjour à tous, vous êtes de retour sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Vous écoutez le lendemain de la veille. Mon nom est Nelson, je suis accompagné de Marc-André.
Yeah, yeah!
Juste avant la pause, on écoutait une pièce de...
Les Cat Burglars.
Cat Burglars.
L'album Code 22. Tu sais quoi le Code 22?
Non, ça a un rapport avec un code de jeu vidéo?
Non, c'est un code de la police. C'est quand il y a une entrée par effraction. Un Cat Burglar, justement, un voleur. Et c'était la pièce Extra Extra. Et ça mettait en vedette Dice B, The Odds et Sunshine. C'est paru sur Seven Seas Entertainment dans les années 2000, mais ça sonne encore. J'ai sorti ça de mes propres boulamites.
Ouais.
Et c'est toujours aussi fresh. Le talent de ce groupe-là, c'est qu'il avait été chercher des vrais musiciens. sur cet album-là, un groupe qui s'appelait IKS, qui faisait du jazz, des affaires un peu plus...
IKS, comme en parenthèse. Oui,
en parenthèse, X. Puis c'est eux en crochet, exactement, et c'est eux qui fournissaient le matériel sonore pour cet album-là. Fait que l'album-là, il est très solide. Et ça me tentait de vous faire jouer ça.
C'est un groupe montréalais.
MTL 514.
Cat Burglars avec un Z.
Exactement.
En un mot.
L'album Code 22. Si vous faites voler, vous allez entendre Code 22.
Excellent.
Hey, là, il faut que je parle. Il faut que je fasse un shout-out à mon homeboy Nelson. Il a fait de quoi incroyable à RATM, Rage Against the Machine, au FEC 2022. On était avec nos amis, nos copines, tout ça. Et lui, on était quand même assez proches, mais ça commençait à être compact. Et il a décidé d'aller encore plus près. Mais le reste de la tribu a resté en arrière. On l'a vu disparaître dans la foule, dans la mer. On te respecte.
Vous m'avez abandonné.
T'es jeune. Ouais, mais nous autres, on est vieux. On ne voulait pas de broken bones.
Moi aussi, je suis vieux.
Mais... t'es allé avec ta copine, toi, t'avais déjà assisté à plusieurs trash de plusieurs groupes, mais ta copine, c'était son initiation totale.
C'est vrai.
T'es allé avec le plus gros. T'es allé avec le plus intense, le plus hard.
Le mosh pit de Rage Against the Machine. Ben oui, c'est sûr.
C'est intense.
Ben écoute, moi, comme je te disais avant la pause, ben moi, c'est la première fois que je voyais Rage Against the Machine et ça serait peut-être la dernière fois, considérant que ce groupe-là n'existe plus vraiment, dans le sens que ils n'ont pas produit de nouvel album depuis début 2000, je pense que c'est 2001, 2002, je ne m'en souviens plus. Et on n'a aucune idée de ce qui se passe après la tournée, là, dans le sens que...
Puis on ne savait même pas que Zach de la Rocca était encore vivant ou qu'il faisait encore de la musique. Moi, je n'avais rien entendu de lui.
C'était mort. Et après la tournée, qui sait qui va se passer? Personne ne sait ce qui va se passer. Est-ce qu'il va faire du nouveau stock ou est-ce que ça va se finir là, puis that's it?
Non. On lance à l'univers
un
nouvel album Rage Against the Machine. Il y a tellement de sujets qu'ils peuvent aborder.
Ben ouais.
D'ailleurs, petite parenthèse, ils ont tu sais, aux États-Unis en ce moment, c'est plus facile de s'armer que là, le droit de l'avortement est en chute libre, si on peut dire. Et ils ont fait un speech.
Ils
sont pour le droit de...
Ils ont pris parole
à cette cause-là.
C'est ça, à cette cause-là. Ou
droit à l'avortement.
Puis dans le visuel, donc il y avait comme beaucoup d'images qui étaient faites pour le spectacle par le groupe, on dirait. Puis donc c'était comme derrière les musiciens, où ce que là, il y avait vraiment plusieurs allusions à plusieurs problèmes d'actualité. Donc Black Lives Matter, la brutalité policière, la crise des migrants. Les migrants qui traversent la Méditerranée en bateau. Les terres autochtones et aussi les migrants au niveau du Mexique-États-Unis, la frontière Mexique-États-Unis.
Mais ils ont gardé un sujet qui était encore qui était d'actualité dans le temps. Zach de la Rocca, le chanteur, avait rencontré le commandante Marcos du mouvement au Chiapas, du mouvement EZLN,
Zapatiste de Libération Nationale, donc un mouvement qui vient de secteur plus autochtone au Mexique.
Au Chiapas,
Et donc, il y avait toutes ces images-là qui rappelaient tous ces sujets-là qui étaient vraiment dans ta face, littéralement. Là, c'était... Mais les images étaient vraiment super belles.
Ouais.
Ils étaient sans narration, sans mots, sans explication. Le groupe, entre les chansons, il restait silencieux. Le chanteur ne disait pas un mot. Mais les images parlaient d'elles-mêmes. C'était vraiment très, d'un point de vue artistique, c'était vraiment très beau. Puis, c'était vraiment puissant, en fait. Vraiment puissant. Donc, tout ça pour dire que, avant le spectacle, ben moi, je voulais me rapprocher parce que c'était une chance à vie, peut-être, qui sait. Puis, ben vous êtes resté en arrière. Donc, on s'est faufilé, on a bousculé plusieurs personnes, certaines personnes qui étaient moins contentes que d'autres. Mais c'est ça, ça fait partie du spectacle.
La game.
On s'est foufoulé vers l'avant, on a sué comme des porcs.
Toi, t'avais un t-shirt,
tout
t'avais
le long du spectacle.
T'avais une chemise longue parce que t'avais eu peur d'avoir froid, puis t'es revenu, puis c'est comme si t'avais pris une douche.
Je sais pas, c'est vraiment comme si j'avais couru. Pendant le spectacle, ma blonde et moi, on se regardait, on se disait, on est comme en train de faire un workout en ce moment. C'est comme si on courait un 15 km.
Ouais.
Donc, on était vraiment là, on était...
Vous êtes des athlètes, vous êtes habitués.
Imbibés de sueur, puis c'était vraiment intense, c'était vraiment cool.
Vous n'êtes pas perdu?
On s'est jamais perdu.
Non? Ah,
okay. Écoute, on était vraiment squeezé, ça brassait dans tous les sens. Il y avait du body surfing dans tous les sens. Okay. C'était vraiment extraordinaire.
Ta blonde, as-tu fait du body surfing?
Non.
Toi, t'en as-tu fait?
Non. Non, ça, ça m'intéresse moins. De me faire toucher comme ça par plein d'étrangers. Non, c'est pas.
De faire taponner ton corps. Déjà,
t'es comme, quand quelqu'un arrive en body surfing près de toi, t'es comme obligé de t'impliquer parce que tu veux pas qu'il tombe sur ta tête.
Ouais.
Mais déjà, ça, ça me. Disons que c'est pas mon c'est pas quelque chose que je trippe vraiment beaucoup en spectacle. D'attraper des gens au vol comme ça.
En sueur.
Mais c'est quand même cool. Ça fait partie de l'expérience.
Exactement.
Tu vois 3-4 personnes en même temps faire du body surfing dans tous les sens. C'est cool.
C'est le total.
Ça rajoute au spectacle. Puis même qu'à un moment donné, le chanteur a pris la peine de dire aux gens, t'sais, on est ici pour avoir du fun. J'espère que vous ne faites pas du mal. On est ici pour se défouler. Mais pas pour se faire mal, puis that's it.
Ah, il est donc consciencieux, notre Zach de la
Roca. Surtout que lui, il s'était blessé sur scène quelques jours plus tôt.
Pendant je pense que le reste de la tournée, il est assis. C'est drôle, il se fait transporter par deux sécurités ou deux membres du personnel, et à la fin du spectacle, il y a peu de rappel, on vient le chercher. C'est comme une plante qu'on dépose sur le stage,
c'est vrai.
Il fait son show, et on vient le rechercher, on vient le déposer à l'arrière.
C'est vraiment exactement ça.
Hey, moi, je vais faire une anecdote de vie, tu sais comment je suis. Moi, je les avais déjà vus, fait que Brag, represent le Roi Mage, vu Rage Against the Machine.
Vas-y.
À Barrie, en Ontario, à Lollapalooza. Je peux pas dire quelle édition, quelle année, c'est dans les années 90, avec Alice in Chains, avec Primus, avec Tool, avec Fishbone, name it, avec Arrested Development. Et dans c'est qui ouvrait le bal de toute cette belle journée-là du Lollapalooza, le festival alternatif venant des États-Unis de Mr. Jane's Addiction?
Ah ouais.
C'était Rage Against the Machine.
Okay.
Et Rage Against the Machine, en plein après-midi, vers 13h, commence un spectacle.
Wow, c'est tôt, ça.
Et ils ont juste un album en dessous de la cravate. C'est le fameux album
éponyme,
Rage Against the Machine, que vous pouvez voir. Là, il y a un moine qui est en feu, qui s'est immolé. C'est un album coup de poing avec tous les hits dessus. Et le drummer drumait dos à la foule.
Ah ouais.
Et ça avait fait beaucoup jaser, même Lollapalooza, qui est supposé être open-minded sur tous les styles, sur toutes les tendances, n'appréciait pas que, je ne sais pas si c'est pour mousser le show, c'est pour faire de la publicité, parler en bien ou en mal, mais le drummer drumait dos à la foule. Et je me souvenais pas qu'il y avait une espèce de miroir, comme une espèce de gros miroir, et lui pouvait regarder dans le miroir et regarder la foule ou les autres membres de son groupe sur le stage. Ça, je ne m'en rappelais pas. C'est un de mes amis qui me l'a fait souvenir.
Okay.
Ça, je l'avais oublié. Mais je me rappelais qu'il avait drumé dos à la foule et l'organisation de Lollapalooza n'avait pas apprécié, mais tu connais Rage Against the Machine, ils portent bien leur nom, ils se foutent des conventions, et ils ont fait ce show-là et c'était fou. Et le pit, la tension, j'étais très proche, ça, c'était le chaos total.
Oui.
Moi, j'ai vu les autres groupes, on s'est promené dans la journée, voir tout dans l'après-midi, c'était assez spécial, c'est la première fois que je les voyais aussi. Et on était descendu avec l'autobus c'était trois autobus signalisés qui partaient de Montréal au Square Berry et qui s'en allaient à Barrie et qui revenaient le soir. Et ça s'appelait New Music, comme l'émission de Claude Rajotte le dimanche vers 13h. Ça s'appelait New Music, c'était de la musique alternative. Fait que tous ces groupes-là jouaient, généralement, les vidéoclips, tout ça. Et là, c'était trois boss analysés pour ça. Et dans l'autobus, moi, je suis avec une gang, mes amis, et je suis assis à côté d'une charmante fille et sa sœur. Et sa sœur, elle a un bras dans le plâtre.
Oh!
Sa sœur, à Rage Against the Machine, était très proche. Après deux tunes, est dans le mosh pit et elle se casse le bras. En après-midi, sa sœur, son amie...
Elle se casse le bras qui était déjà cassé.
Non, elle se casse le bras au spectacle de Rage Against the Machine.
Ah, OK,
ouais.
OK.
Il passe une partie de l'après-midi dans un hôpital dans ces environs-là.
Oh, boy.
Ils reviennent à un plâtre.
OK.
Ils ont manqué la moitié du show. Fait que c'est une anecdote. J'étais allé au premier show de Rage Against the Machine, je me suis cassé le bras. Et là, on parle de la petite sœur. Moi, j'avais peut-être 19-20 ans. Et la petite sœur a peut-être 16 ans. C'est la petite sœur de mon amie, ma nouvelle amie. Et une amitié s'est créée par rapport à « Hey, comment qu'elle s'est cassé le bras? » C'est ta Rage Against the Machine.
Quand même,
Ouais, quand même.
c'est quand même plate, mais en même temps, c'est un
ouais.
souvenir.
C'est un souvenir. Je ne sais pas si c'était là pour remémorer ce 25
au
ans plus tard
au
Festival d'été de Québec.
Fort,
là,
fort probable.
Ça a été très, très, très drôle. Enfin, moi, je les avais déjà vus et j'avais été très impressionné. J'ai toujours été un gros fan de Rage Against the Machine à cause de ce show-là. Parce que je ne connaissais pas vraiment. Je vais faire un shout-out à Christian Dubé, premier chanteur des Jungle Manor. Il était tout le temps un peu en avance sur qu'est-ce qui sortait sur Sub Pop, fait que les Nirvana, tout ça. Et moi, il m'en faisait écouter et c'est rare, j'embarquais. À part Soundgarden puis Madonna, là-dessus, on s'entendait à 100%. Et c'est un des seuls gars, je peux dire, qui a vraiment vu Nirvana au Fofone électrique.
Okay.
J'ai vu le billet, il y avait le T-shirt. Quand il revenait d'un show, Christian, il y avait le chandail du groupe. Et Rage Against the Machine, c'était la même chose. Mais Christian Dubé ne trippait pas nécessairement sur le rap, même si un de ses très grands amis, Mike, en écoutait. Et ça a été le groupe qui a uni, un peu comme Aerosmith, Run DMC dans le temps, Walk This Way. C'est qu'est-ce qui a uni le rap puis le hardcore ensemble. C'était Rage Against the Machine. Fait Christian Dubé était avec la cassette. Et moi, pas longtemps après, ah, c'est quoi ça, Rage Against the Machine? Ah, c'est pas pire. Ah, ça vient de Los Angeles, ça pogne au bout. Ils sont super underground, mais ça grossit, là, c'est phénoménal. Puis là, on a embarqué là-dedans.
Ouais.
À fond. Puis là, je sais qu'ils étaient venus à Montréal, à Verdun, je pense. Ils sont venus à Verdun, je pense,
à l'auditorium. Ouais. Ouais.
Ça, je l'ai manqué. Je ne les ai jamais vus à Montréal, malheureusement. Mais,
ouais.
Mais très bon groupe, on les adore. On n'en fera pas jouer, mais on va faire un autre dédicace à un groupe qui se promène souvent en van, qui a un groupe de musique montréalais, Paradise, qu'on a déjà fait jouer. On salue Frank et toute la gang qu'on a déjà en entrevue, Frank Kelly. On va faire jouer les King of the Road, nul autre que Fu Manchu.
Your mind.
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter les Fu Manchu avec la pièce King of the Road. C'est assez clair?
C'est assez clair. Quand là, t'es sur la fast lane, là, la voie de gauche, là, tasse-toi. Ils veulent aller vite, c'est les King of the Road, c'est eux autres. Ils se promènent en van, ils viennent de la Californie, ils ont des grosses vannes modifiées. Tasse-toi de là, mon oncle, parce qu'eux autres, ils ont le pied pesant. Ça a l'air à des surfeurs, ces gars-là. Ça n'a pas l'air à des... Tu sais, c'est du stoner rock, c'est du stoner du metal, whatever. Du stoner rock, mais ces gars-là, c'est the real thing. On les a vus souvent en show. Tous les albums, ça torche. Et sur cet album-là, parce que les membres ont changé une couple de fois, on va faire un spécial stoner, je vous le promets. Mais sur cet album-là, t'as nul autre que Brian Bjork on drums, t'as Bob Batch on lead guitar, Brad Davis on bass et le chanteur, l'unique Mr. Blondie, Scott Hill on guitar et vocal. Fait que cet album-là torche tout le long. C'est leur vie. Tu sais, eux, là, ils faisaient le van life avant que van life, ça soit cool.
Oui.
Ils se promènent avec des planches de surf, des BMX, ils s'en vont sur la plage. C'est des Beach Bums. C'est les Beach Boys des années 2000, mais avec le pied plus pesant et la guitare un peu plus électrique. Un peu plus de wah-wah dedans.
De quoi?
Du wah-wah. Ça, là, c'est une pédale, là.
Ouais,
Cry
ouais,
Baby.
Ouais.
Tu pèses dessus, là, comme okay. Jimi Hendrix.
Ouais.
Ça fait wah-wah-wah-wah-wah-wah.
Ah, OK. Ouais. Comme dans la musique de film 3X.
Exactement.
C'est ça qu'on entend souvent.
Wah-wah-wah. T'es fou dans ta tête.
Hey, avant.
Vu qu'on parle pas de bande dessinée cette semaine, je vous avais promis quelque chose.
Ah oui, donc?
À Québec, ils sont rendus au 35e Festival d'été de Québec.
Moi, non. Festival de.
Quoi?
Festival d'été de Québec?
Non, j'ai-tu dit d'été?
Oui.
Ah, excuse-moi. 35e Festival de BD de Québec.
C'est pas loin, mais c'est ça. C'est donc Festival de bande dessinée de Québec.
Exactement.
OK.
Ils sont en la 35e édition. C'est du 6.
Au mois d'avril.
C'est du 6 au 10 avril 2022. mais moi, je suis allé voir. Là je me suis pris les culottes.
Mais toi, t'es allé voir une exposition.
Non, moi, je suis allé voir une exposition.
Ils m'ont donné, qui n'est pas le festival.
Qui n'est pas le festival. Ils m'ont donné une affiche.
Ouais.
Mais ça faisait partie quand même de tout ce qui fait partie de ce festival-là. En gros, c'est que c'est dans le Vieux-Port de Québec, près de l'Agora, où est-ce que la super belle scène, où est-ce que les Québec Rednecks ont joué avec les Groovy il n'y a pas si longtemps. Et là, tu as des rencontres, tu as des animations, tu as des ateliers, tu as des expositions sur la bande dessinée. Tu as le début de la bande dessinée au Québec jusqu'au dernier personnage d'aujourd'hui. En plus de ça, tu as un étage qui est consacré à la bande dessinée, on va dire, franco-belge, avec les Tintins, les Astérix, les Lucky Luke. Et tu as des acétates originales des films, exemple de Tintin, le lac aux requins, qu'on a vu mille fois à Ciné-Cadeau.
Oui.
Tu as Daisy Town de Lucky Luke avec Matt Dalton, les Dalton dessinés, les acétates qui font que tu peux faire l'animation.
Dans le fond, c'est comme les cellules qu'on voit. Donc,
qui font l'animation. Ils font un décor.
Image
ouais, exactement.
De l'animation.
Ouais.
OK.
Même chose avec Astérix et Obélix, prêté généreusement par la fondation Goscinny-Uderzo là-bas. Ils ont prêté Astérix et Cléopâtre et les 12 travaux d'Astérix, tout ça. Fait que tu as ça devant tes yeux,
wow,
dans une vitre, tout ça, et tu peux contempler ça des heures et des heures. T'as, ça part de la bande dessinée du Québec de Onésime, qui est les bandes dessinées là, qu'il y avait dans les revues agricoles, à peu près aux almanachs, à peu près à nos plus récents personnages de bande dessinée. Fait que c'est super intéressant. C'est sur un endroit merveilleux, tout fenestré. Fait que même en visitant l'exposition, on peut visiter, on peut faire du lèche-vitrine de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur dans le Vieux-Port, dont la petite piscine. Là, il y a comme une piscine que tu peux te patauger dans
oui,
dans
c'est le Café du Monde, je crois.
Ah, si tu le dis.
Oui, oui, oui. Ben oui, c'est là qu'il y a le festival de bière.
Ah oui, à Québec, c'est Québec. Là qu'ils font ça, là.
Okay. Sauf erreur. Okay. Là, je ne suis pas de Québec, hein. Moi, ouais, je suis à Montréal, mais...
Appelle ta soeur, elle est là-bas, elle doit connaître.
C'est le Café du Monde,
okay,
je crois bien,
ouais,
sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux. Et pas très loin du musée de la civilisation, là, dans ce coin-là. Là.
Ouais. Mais là, moi, je suis vraiment, là, quand je suis dans cet édifice-là, c'est vraiment... attends, je vais trouver mon cellulaire. C'est vraiment, là, c'est vraiment le port qui est là.
Ben, je crois que ouais. C'est l'espace du 400e, le bâtiment
ah,
espace
exact,
400e.
C'est ça. Tu l'as l'affaire, toi. Mm. C'est exactement ça.
C'est exactement donc, c'est une exposition qui... Est, donc, c'est pas le festival, mais ça a rapport, mais c'est une exposition qui a... lieu dans ce coin-là.
Oui, là, j'ai les bonnes dates. Excusez-moi, pardon. Ouais. Moi, je regardais mon affiche, là, j'étais tout impressionné. Parce que c'est le même dessinateur, super belle affiche de Guillaume Perrault, que je ne connaissais pas. Fait que c'est le pavillon de la BD, exposition et bande dessinée, exhibit and comics. C'est gratuit et c'est jusqu'au 21 août, au okay. Pavillon de la BD. Regardez pavillon BD en un mot, .com, tout simplement. Et ça se passe à Québec.
Très, très cool.
Très, très cool. Moi, j'adore la bande dessinée. Fait que j'aurais pu passer des heures là, mais il faisait chaud. Plus tu montais les étages, au lieu de quand tu descends, c'est plus chaud, plus tu montais les étages, moins il y avait d'air, plus il faisait chaud.
Ah!
Il y a peut-être un petit problème avec la climatisation
ouais.
Et le début de la canicule estivale.
Puis si vous manquez l'exposition, ben on se reprend l'année prochaine parce que c'est un festival qui revient chaque année.
Exactement, mais au mois d'avril... Et non au mois d'août. Moi, je pensais que ça allait ensemble parce que c'est le même artiste que je disais, Guillaume Perrault, qui fait les deux affiches. Et les deux affiches se ressemblent énormément.
Donc, il reste un gros 4 minutes. En fait, un gros 3 minutes et demie à l'émission.
Bon, on va y aller en musique. C'est le 35e anniversaire de Excel, un groupe de la Californie. On reste dans la Californie, on sort de Québec. Et il y a eu... je vais te faire écouter la chanson et tu me diras si ça te fait penser à une certaine chanson de Metallica. Les gars se sont réveillés, les gars d'Excel, et ils font plus de musique, se sont réveillés, puis on se dit, hey, les gars de Metallica, ils nous ont volé un riff.
Ah ouais.
Puis ils ont fait un hit.
C'est vrai,
mais
ça.
Moi, j'ai pas poussé ça plus loin, puis mon amie Stéphanie, la métalleuse, on n'a pas poussé ça plus loin, mais... On va envoyer une femme et un homme là-dessus, là, faire une investigation. Ou Claude Poirier, là, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette mise en demeure. Fait qu'écoutez ça, 35e anniversaire de cet album-là.
Est-ce qu'on se laisse là-dessus? Parce qu'il reste,
on se laisse là-dessus.
Ça va être la fin de l'émission.
Ça okay. Va être la fin de l'émission. Bye-bye.
Good evening and welcome to the I'm Taff Live Radio Hour. You're tuned in to CKUT.ca 90.3 FM. Pre-recorded in these pandemic times in quarantine studio with your hosts, Anna Basin, DJ Choosy, and I'm Dawn.
Special quarantine tribute to Maurice Ravel's legendary melody and tune, Bolero. We're going to be listening to nothing but Bolero for the next 2 hours, so strap yourselves in, folks, and get ready for a ride.